Bonjour et bienvenue à cette émission de la série Croire d'hier à demain, réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal. C'est Francine Robert au microphone, en remplacement de Christine Cossette. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un collègue, Gaston Raymond, dominicain, qui est à l'Institut de pastoral depuis les débuts, c'est-à-dire depuis 50 ans, et oui, c'est notre doyen. Gaston a été professeur de philosophie, de théologie fondamentale, de théologie pastorale. Il apporte une contribution particulièrement importante dans la réflexion sur le sens théologique de la pastorale, sur les enjeux fondamentaux en éducation de la foi et dans bien d'autres domaines aussi. Gaston est un touche-à-tout, un esprit polyvalent. Aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet pour lequel je crois que ça demande une certaine audace. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ou dans quelle catégorie de pensée peut-on exprimer quelque chose à propos de ce que nous croyons qu'il y a après la mort? Puisqu'après tout, nous disons dans le credo, à la fin du credo, « Je crois en la résurrection de la chair et en la vie éternelle ». Ces mots-là posent plusieurs problèmes aujourd'hui. Et donc, Gaston va tenter de nous éclairer sur ces grandes questions fondamentales du sens de l'existence. Gaston Raymond, bonjour et bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Dites-moi, Gaston, je vous ai annoncé, en parlant entre autres du credo, est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de la manière dont aujourd'hui ces paroles résonnent pour les gens, sachant qu'un peu plus tard dans l'émission, on pourra revenir sur ce que l'on trouve dans la tradition chrétienne à ce sujet et aussi, plus tard encore dans l'émission, qu'est-ce que la théologie contemporaine offre comme éclairage. Mais partons d'abord des gens. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la pensée populaire, je dirais, ou ce qui circule face à des paroles comme « je crois à la vie éternelle », etc.?
Alors, il y a plusieurs positions, conceptions qui circulent. Enfin, ça va de la personne, au fond, qui vit avec la conviction que après la mort et à travers la mort, il y a une vie en Dieu, qu'on va appeler vie éternelle. Pour beaucoup d'autres, au fond, c'est quelque chose de beaucoup plus vague. Vous allez entendre dire, il y a quelque chose, tout le bord. Ou bien non, on va entendre dire, écoutez, quand je serai rendu là, j'y verrai. Et d'autres vont dire simplement, non, enfin, la vie humaine se termine avec la mort. C'est même une donnée philosophique très contemporaine, enfin.
Oui.
Alors, la différence que nous vivons aujourd'hui en regard de cette dernière article du credo, c'est qu'il n'y a pas d'unanimité. Il faut bien se rendre compte que chacun doit prendre sa propre position.
Alors, ça sera un des nombreux domaines parmi d'autres dans la foi chrétienne où on est renvoyé à élaborer nos propres réponses, sachant qu'on le fait toujours aussi avec d'autres et aussi à la lumière de la tradition, bien sûr. Mais ce que vous avez dit, oui, des gens qui disent non, la vie comme elle est, ça suffit et après, il n'y a rien, me rappelle Pierre Gauvreau, qui est un des signataires du refus global, qui est décédé il y a quelques jours. C'était ça sa position. Hein?
Oui.
J'ai réussi ma vie, je pense, elle est bien remplie, voilà, et elle se termine ici.
Ici. C'est...
Mm-hmm. Par contre, je pense à un autre personnage assez connu de nos auditeurs plus âgés. Dans votre document, Gaston, vous aviez une citation de Doris Lussier, dont plusieurs se souviendront comme étant le père Gédéon.
C'est un poème qui s'appelle « Berceau ».
C'est un poème publié par Doris Lussier?
Je l'ai trouvé sur un site Internet.
Ah oui?
C'est une réflexion de Doris Lussier, qui est encore fort bien vivant hein, à l'époque, et qui réfléchit sur sa recherche du sens de la vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le sent qu'il cherche, hein, et qu'il trouve en quelque sorte une réponse qui est à la fois sérieuse, convaincue, mais pas évidente. Je peux peut-être en lire un petit bout. La tombe est un berceau. Mourir au monde, c'est naître à l'éternité, car la mort n'est que la porte noire qui s'ouvre sur la lumière. La mort ne peut pas tuer ce qui ne meurt pas. Or, notre âme est immortelle. Il n'y a qu'une chose qui peut justifier la mort, c'est l'immortalité.
Donc, on voit que Doris Lussier ici reprend les catégories très traditionnelles de la foi, l'âme immortelle. Il y a quelque chose là de, à la fois de vieux et de neuf, je dirais.
Il reprend en donnant, disons, de la tombe est un berceau, la vieille formule, enfin, chez les chrétiens, de la mort, c'est une nouvelle naissance.
Ah, d'accord. Il y a des gens qui se reconnaissent probablement dans cette position-là. On faisait le tour d'un certain nombre d'opinions ou d'attitudes. Vous me parliez, Gaston, avant l'émission, d'un chercheur qui s'appelle Lifton, je crois, qui, lui, réfléchit, mais en dehors complètement de la sphère religieuse, en dehors de toute référence religieuse. Je ne sais pas, son domaine, c'est la sociologie ou...
Plutôt la psychologie.
La psychologie.
Et l'histoire.
Est-ce que vous pourriez un peu nous résumer?
Alors, Robert Lifton a écrit plusieurs ouvrages à partir de ses études sur les survivants de Hiroshima et aussi des survivants, enfin des soldats américains qui avaient fait la guerre du Vietnam, qui avaient connu la mort. Et il a même étudié Mao Tse-tung. Alors, sa recherche l'a amené à comprendre une chose. C'est Freud qui disait, au fond, que toutes les convictions autour de l'immortalité, enfin, de la vie future, c'est des illusions, hein, entretenues par, au fond, la peur. La position de Freud, ses convictions d'une vie après la mort, qui sont pour lui, au fond, une sorte de forme de narcissisme et une illusion. Hein. Et c'est une opinion qui est certainement partagée par beaucoup de concitoyens, beaucoup de gens éduqués. Alors, Lifton, dans son étude sur les survivants de Hiroshima, s'est aperçu, au fond, que ces survivants-là avaient perdu quelque chose, hein, et qu'ils se sentaient ni morts ni vivants. Hein. Il y a quelque chose qui était disparu dans leur expérience. Hein. Et il a fini par identifier, au fond, que ce qui était disparu, c'était la conscience de vivre avec un avant et un avenir. Hein. Et alors, il a étudié donc ces gens-là, et il disait, c'est pour qu'un être humain soit vraiment vivant, et ces survivants ne l'étaient plus, hein, ils n'étaient pas morts, mais ils étaient comme. Hein, un humain, pour être véritablement vivant, doit avoir en quelque sorte une représentation, hein, de ce qu'il va appeler une immortalité symbolique. C'est-à-dire qu'il se voit, il se pense, enfin, dans une continuité de la vie. Il y a un avant et un après. Et alors, cette immortalité symbolique est une représentation. Hein? Lifton ne nous dit pas si c'est vrai ou pas. Il dit simplement, je dis, les gens ont besoin, psychiquement, c'est une nécessité psychologique, de ne pas se concevoir comme un point dans l'espace, mais au sein d'une continuité qu'il va appeler une immortalité symbolique, qui va prendre plusieurs formes. Il y en a une qui nous est évidente. Enfin, cette immortalité symbolique qui donne sens à la vie des personnes, c'est l'immortalité par la descendance. C'est très fréquent, on le constate chez les gens qui ont des enfants.
Se survivre à soi-même.
À soi-même.
Dans ses enfants.
Ouais. Vous aurez l'immortalité par l'œuvre. Alors, ce faisant, Lifton a clarifié, enfin, il a contredit la position de Freud, au fond, qui est devenue une sorte d'évidence dans notre culture. Et c'est une recherche qui n'est pas théologique ni religieuse, c'est une recherche faite par un spécialiste, enfin, un étudiant des populations.
Donc, qui affirme qu'on a besoin de pouvoir se projeter soi-même dans l'avenir, même si on sait en même temps qu'on doit consentir à notre finitude et à notre mort, on a besoin de se représenter soi-même dans un avenir qui nous dépasse, pourrait-on dire. D'accord. Avec cette proposition-là que Lifton fait, vous diriez qu'il cherche à répondre aux questions fondamentales de l'existence?
Oui, si on prend le langage un peu plus familier, que tout le monde connaît, on a dit souvent que l'être humain, il y a trois grandes questions qu'il se pose. D'où je viens? Première question. Deuxième question, qui suis-je et qu'est-ce que j'ai à faire? Et troisième question, où je m'en vais? Alors, la troisième question, où je m'en vais, c'est ce domaine, enfin, de réflexion sur l'avenir radical des êtres humains, que dans le langage savant de la théologie, on va appeler eschatologie.
Eschatologie, oui. comme vous dites, c'est dans le langage savant. Mmh. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition pas trop savante?
Alors, la formulation la plus fréquente qu'on rencontrait, mais qui, à mon avis, dès qu'on la mentionne, une méprise, c'est la réflexion sur les fins dernières.
Ah, oui.
Mais pour nous, les fins dernières, c'est ce qui finit. Mais ceux qui pensaient à l'origine cette expression des fins dernières, ils pensaient au novissima, comme on disait en latin, c'est-à-dire aux choses à venir.
OK. Mmh. Novissima, enfin, mon latin est rouillé, mais ça veut dire nouveauté.
Les nouveautés.
Oui, c'est une expression qui me plaît pas mal plus que les fins dernières.
C'est le commencement, au fond, c'est la nouvelle naissance.
Avec une dimension collective, évidemment. L'eschatologie, c'est pour tout le monde, c'est l'humanité. OK. C'est sûr que la manière dont on répond à la question de l'avenir radical qui m'attend conditionne la manière dont je réponds à la question « qu'est-ce que je fais de ma vie ?» ou « quel est le sens de ma vie ?» ou, pour le dire autrement, comme d'autres, « est-ce que c'est rien que ça, la vie ?» D'accord. Bon, sur ces questions complexes et sans réponse, on va pouvoir réfléchir à l'occasion d'une pause Gaston en écoutant une chanson de Luc de la Rochelière, « Si fragile ».
On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Est si fragile. Est si fragile, est si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va et la vie. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense Dieu, sitôt on reçoit une croix. Car la vie est si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile, dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie. Car la vie est si fragile, est si fragile, est si fragile.
Alors, Gaston Raymond, sur les questions fondamentales de l'existence. La tradition chrétienne a bien sûr, je dirais, non pas une réponse, mais tout un éventail de réponses. Après tout, on a 2000 ans de tradition. Et on pourrait peut-être commencer par les fondements bibliques de la tradition chrétienne, ce qui nous ramène encore plus loin dans le temps avec le Premier Testament. Qu'est-ce que le Premier Testament nous propose comme point de vue sur ces questions de vie après la mort et ainsi de suite?
Alors, la première surprise qu'on a quand on fréquente la tradition chrétienne jusque dans ses origines, c'est que dans la tradition biblique, on reste tout à fait surpris de voir qu'en Israël, pendant des siècles, on a conçu que la vie humaine se terminait avec la mort. Et c'est une surprise, hein, parce que on s'attendrait que ces croyants aient été comme nous, des gens qui croient à l'immortalité de l'être humain. Or, ils croyaient en Dieu, leur relation à Dieu était fondamentale, et pourtant ils ont refusé d'accepter ce qui était présent autour d'eux, entre autres en Égypte, toutes les croyances en l'immortalité qu'ils avaient autour d'eux. Et ils se sont mis en contradiction avec ça. Alors, cela me rappelle tout de suite que la première conviction que j'hérite de ma tradition chrétienne, c'est qu'au fond, la mort est naturelle.
C'est normal que nous soyons mortels.
Nous sommes des organismes. Si un organisme, c'est mortel. C'est la première conviction que souvent, enfin, on essaie d'escamoter.
Ben oui. Hein?
Alors que quand on lit la tradition chrétienne, on s'aperçoit que d'une part, ils affirment la pleine réalité de la mort et en même temps, quelque chose d'autre. Hein? La mort est naturelle et pourtant, il y a là, on fait une expérience paradoxale. Elle ne nous convient pas.
Et pourtant, d'une certaine manière, vous me dites, le judaïsme du temps biblique a résisté à la tentation de résoudre ça en se faisant plaisir et en empruntant les croyances en l'immortalité. La mort est naturelle, c'est l'état normal des choses, sans illusion, tout comme votre monsieur Fulton, c'est très, très moderne en fait. Et en même temps, on prend acte que ça ne nous convient pas.
Ça ne nous convient pas, et peu à peu on se dira, c'est à Dieu que ça ne convient pas.
Ah!
Ils vont réfléchir à l'avenir des humains, à partir, au fond, de leur confiance en Dieu. C'est comme ça que ça va se développer. Mm-hmm. Non pas à partir, au fond, d'une réflexion sur soi-même, sur une philosophie, sur... Non, c'est en réfléchissant à leur histoire avec Dieu que, peu à peu, ils en viennent à découvrir, au fond, la première chose que leur rapport à Dieu, au mystère qui nous entoure, que nous appelons Dieu, ça va être, donc, d'une part, concevoir que la mort est bien réelle, mais en même temps, que ce Dieu-là, disons, contredit les convictions aux alentours, qui étaient les convictions que la vie humaine, c'est une sorte de cycle qui se répète.
Oui, oui.
Une sorte de répétition infinie, enfin...
Des saisons, ce sont les religions de la nature.
Les religions de la nature, enfin. Et alors, leur rapport, enfin, à Dieu, leur prière, mais aussi leur réflexion, les amène à comprendre que Dieu les ouvre à l'avenir. À un avenir. C'est la première ouverture, au fond, qui vient corriger, en quelque sorte, cette espèce de fatalisme qui était le régime fondamental de la pensée. Fatalisme, en passant, qu'on voit réapparaître aujourd'hui dans la culture contemporaine, hein, qui a été étudiée, d'ailleurs, par des gens très sérieux.
Hein. Ah oui?
Oui. Hein. Alors, c'est donc l'ouverture à l'avenir. Et ça, c'est venu à travers les prophètes, à la pensée prophétique.
Qui est une pensée historique, vision du temps plus linéaire par rapport à ce que vous appeliez tout à l'heure une vision cyclique. Et donc, s'il y a une histoire, il y a un avenir. Comme
il y a un
vous
avenir. Cet avenir va être, disons, un espoir très concret d'avoir un pays, d'avoir une vie pleine et en abondante. Enfin,
des enfants.
Des enfants.
Donc, c'est toujours pas la foi en une résurrection personnelle.
Non. Oui, un avenir, enfin, qui lentement va se dessiner avec d'ailleurs des épreuves. Et c'est le chemin, au fond, que la conviction chrétienne, enfin, a porté en l'appuisant chez les prophètes. Et même jusqu'au point où, s'apercevant à travers des épreuves dramatiques, alors c'est la chute d'Israël, c'est la déportation, c'est les efforts de reconstruction, mais qui n'ont pas abouti, en réfléchissant à leur relation à Dieu, ils ont dit, hein, peut-être que notre avenir, il ne peut pas se faire en ce bas monde, il ne peut se réaliser qu'en dans quelque chose de transcendant. Et c'est là qu'on arrive, au fond, au climat qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Enfin, ce climat, au fond, où il y a une croyance en une vie éternelle, mais transcendante. Disons, les croyants juifs, ils sont arrivés très lentement, et dans l'héritage chrétien, on a accueilli ça. Et donc, dans la lecture des Évangiles, on voit que c'est l'arrière-fond du Nouveau Testament.
Ouais.
C'est acquis.
Oui. Mmh? Et c'est acquis dans la foi juive au temps de Jésus. Mmh. Quand Jésus parle d'être relevé lui-même d'entre les morts, il n'annonce pas de nouveauté, effectivement. Donc, ça veut dire qu'au moment où la foi chrétienne démarre, sur la base de la foi en la résurrection de Jésus, on a déjà cet arrière-fond d'une foi en un Dieu qui relève les morts. Si je veux boucler avec ce que vous disiez tout à l'heure, ça garde entière l'affirmation que la mort est naturelle, puisque ce croire-là n'est pas un croire, finalement, qui dit « on a en nous ce qu'il faut pour vivre après la mort ». On n'est pas chez les Grecs avec une âme immortelle.
Non.
C'est une foi en un Dieu qui relève des êtres dont la mort est parfaitement naturelle et totale.
C'est ça.
OK.
C'est pour ça qu'on trouve dans l'Ancien Testament de belles pages qui réfléchissent sur la vie humaine et qu'on pourrait trouver pessimistes. Par exemple, dans Job.
Oui.
Il y a une sorte de réalisme qui est justement le chemin vers la découverte de la vie éternelle. Parce qu'on voit que Job, au fond, il reconnaît que la mort est naturelle, puis en même temps, ça ne lui convient pas. Il y a ce passage qu'on trouve dans Job, chapitre 14, où il compare la vie de l'homme avec la vie des arbres. L'arbre meurt, mais lui, ses racines reprennent vie. Même avec des racines qui ont vieilli en terre et une souche qui périt dans le sol, dès qu'il flaire l'eau, l'arbre bourgeonne et se fait une ramure comme un jeune plant. Mais l'homme, s'il meurt, reste inerte. Quand un humain expire, où donc est-il? Les eaux de la mer pourront disparaître, les fleuves tarir et se dessécher. L'homme, une fois couché, ne se relèvera pas. Les cieux s'useront avant qu'il ne s'éveille ou ne soit réveillé de son sommeil. On voit que Job proteste contre ça.
Oui, oui, bien sûr.
Ce réalisme, puis en même temps, la protestation, comment se fait-il qu'on ne peut pas? C'est une étape, à mon avis, extrêmement importante.
Oui. Gaston Raymond, on a beaucoup parlé du Premier Testament. C'est sûr que le Nouveau Testament est très lié aussi. Est-ce qu'on pourrait ramasser un petit peu la pensée judéo-chrétienne à l'époque du Nouveau Testament?
Alors, on peut le formuler en retenant trois grandes images très dynamiques qui structurent, au fond, la foi chrétienne dans sa réponse à la question « Où allons-nous? » Ces trois grandes images, on les trouve dans le Nouveau Testament. C'est d'abord une grande image qui exprime, disons, dans l'eschatologie individuelle ou personnelle, et c'est l'image de la vie éternelle. Il y a une deuxième grande image qui exprime l'eschatologie plus collective ou historique ou politique, si vous voulez, qui est l'image du royaume de Dieu.
Oui, donc une société transfigurée.
C'est ça. Et une troisième image, qui j'appellerais l'eschatologie cosmique, c'est l'espoir et l'attente d'une terre nouvelle et de cieux nouveaux. Ces trois grandes images résument, en quelque sorte, la réponse chrétienne du Nouveau Testament à la question « Où allons-nous? ». C'est un avenir à la fois personnel et collectif et même cosmique.
L'espérance personnelle, c'est l'espérance d'une vie en relation avec Dieu. Le collectif, donc le règne de Dieu, une humanité transfigurée.
Transfigurée.
OK. Puis ensuite, vous avez dit cosmique.
Cosmique.
Ce qui me rappelle cette citation de Paul aux Romains que vous aviez mis dans un de vos textes que j'ai lu, Romains au chapitre 8, Paul qui dit « Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. » Donc le monde lui-même a besoin d'être transfiguré. Alors ça pousse ses racines profondément dans le Premier Testament, cette conviction que tout évolue vers une sorte de plénitude et que Dieu est en avant. Dieu est en avant et
que nous sommes en marche vers.
Dieu est l'avenir de l'homme dans ces convictions-là des débuts de la foi chrétienne. Alors, ça, c'était il y a 2000 ans. Il y a eu donc beaucoup d'évolutions et entre autres l'entrée de tout le monde de pensée grecque et l'anthropologie grecque. Gaston Raymond, la façon dont on se représente la destinée humaine au-delà de la mort, c'est très lié à l'anthropologie qu'on a dans une culture donnée. Dans l'anthropologie biblique, l'être humain est un et sa vie, c'est le principe de vie et Dieu le crée constamment, le maintient dans la vie. Chez les Grecs, il y a l'âme immortelle et puis cette pauvre âme est prisonnière d'un corps. Je le dis comme un lieu commun un peu. Qu'est-ce qui se passe au moment où la jeune tradition chrétienne rencontre cette anthropologie alors qu'elle est elle-même enracinée dans l'anthropologie biblique?
Alors, ce qui se produit, on le reconnaît au fond. Quand on regarde, par exemple, les expressions un peu complètes de la foi chrétienne, on a deux séries d'images. Il y a des images qui viennent de la Bible, par exemple, le retour du Christ que nous célébrons à la fin de l'année liturgique. La grande parabole, enfin, du jugement dernier, qui a donné les scènes en peinture, enfin. Alors, il y a ces grandes images bibliques, et puis face à ça, il y a ce que j'appellerais les images un peu plus quotidiennes, qu'on a surtout retenues, et c'était présent dans le texte d'Horace Lussier, enfin, où les quatre fins dernières, disons, là, étaient la mort, le jugement individuel, le ciel et l'enfer.
Ah oui.
Dans la présentation enfin, de la foi de l'Église, à travers la liturgie, mais aussi à travers des instruments plus officiels.
Des catéchismes.
Des catéchismes. On garde ces deux grandes composantes qui jouent un peu l'une contre l'autre. Et en principe, on a retenu surtout la dernière plutôt que la première.
La dernière, donc, ça, mon jugement.
Mon jugement, ma mort, mon ciel.
Mon risque d'aller au ciel ou en enfer. Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme. Et ça, c'est l'âme grecque, finalement.
Ouais. Alors, en tout cas, c'est la rencontre des chrétiens, à mesure qu'ils pénétraient, au fond, dans le monde culturel de l'Empire romain, qui est un monde, donc, qui parle le latin, mais qui est d'inspiration grecque. Alors, ils ont eu à se confronter à cette tradition qui n'était pas sans grandeur. C'est la tradition de Socrate, c'est la tradition de Platon, d'Aristote, des stoïciens. Alors, vous voyez, là, ils étaient, pour faire une comparaison, c'est nous, comme devant une grande culture scientifique, comme la culture, disons, américaine. Alors, ils ne pouvaient pas simplement dire qu'il n'y a rien de bon là-dedans.
Ouais.
Il a fallu qu'ils s'articulent, au fond, leur conviction à travers cet autre héritage qui devenait de plus en plus le leur. Alors, c'est comme ça qu'on a, les composantes de la tradition chrétienne post-biblique.
D'accord.
Qui a gardé ces deux dimensions-là.
Mais ce qui fait étrange, quand on y pense bien, Gaston, c'est que si on fonctionne avec l'idée que l'âme est par nature immortelle, et c'était pas de la religion chez les Grecs, ça, c'était de l'anthropologie.
Conviction philosophique.
Conviction philosophique. Donc, on n'a pas besoin que Dieu nous ressuscite, vous voyez.
C'est pourquoi les chrétiens, dès qu'ils ont été en relation avec ça, alors ils ont pris position, ils ont retenu, au fond, de la pensée philosophique grecque, la conviction que l'être humain est composé d'un corps et d'une âme. Sauf qu'ils ont dit l'âme n'est pas un grain de divinité, une parcelle de divinité, elle est créée par Dieu. Et étant créée par Dieu, là, elle a les privilèges, enfin, de la spiritualité, si vous voulez. Mais ça a été très net, il n'y a jamais eu d'hésitation là-dessus. Enfin, c'est...
Gaston, quand vous avez parlé de jugement, de ciel, purgatoire, enfer, ça m'a frappé, vous avez dit, de grandes images. Dans la tradition, il s'exprime de grandes images. Est-ce que ça veut dire que, pour vous, c'est un langage imagé et donc symbolique? Parce que si c'était le cas, ça pourrait vouloir dire qu'on peut les recomprendre autrement, ces mêmes images, si on est dans un langage symbolique et non qui décrit des choses.
Ces expressions ont souvent été prises de manière extrêmement littérale.
Oui.
Et on oublie, au fond, ce à quoi elles voulaient répondre. Je pense que ces grandes images-là, qui sont des images dont, si on revient à notre point d'ancrage, quel est mon avenir ou notre avenir? Alors, ces grandes images nous disent, au fond, que dans notre vie actuelle, notre vie personnelle, notre vie collective, il y a de grands enjeux. Il est possible d'accéder à une vie pleine et entière, mais il est aussi possible d'échouer. Et c'est ces images-là qui ont une grande...
force.
Force. Hein?
Oui, d'évocation.
Ont été là pour justement nous réveiller. Et ces grandes images reprennent, si vous voulez, au fond, le grand thème de toute la Bible. L'homme, l'être humain, peut choisir deux voies. La voie qui mène à la vie, mais la voie qui mène à la mort.
Ah, oui.
Vous trouvez ça dans l'Ancien Testament.
Ah, oui.
L'être humain est un être qui a à faire des choix. Et alors, ces images plus eschatologiques, disons, ont pour but, enfin, de nous réveiller, nous faire prendre conscience de l'enjeu fondamental de la vie de chacun.
Ouais.
Tu peux chercher à entrer dans la vie, non pas te donner la vie, mais à entrer vers, ou tu peux y renoncer.
Et c'est lié à ta responsabilité éthique.
Éthique et plus large qu'éthique, la responsabilité de ton choix de vie, disons ça comme ça, là. C'est pas seulement la conduite. Alors, ces images-là, elles posent problème. Hein? Il y a deux attitudes qu'on peut avoir. Hein?
Face au ciel et à l'enfer.
Face au ciel, à l'enfer, ou même au jugement. À la mort, il y a moins de position.
Ouais.
Parce que c'est un fact.
Oui, le problème, c'est toujours après.
Après, oui.
Alors, donc, deux attitudes.
Alors, qui sont répandues. Alors, il y a des gens qui prennent ces images-là comme étant des descriptions littérales de l'avenir transhumain, disons ça.
Vous savez, Gaston, je vous interromps, c'est parce que ça a inspiré tellement d'artistes au niveau graphique que ça nous est advenu d'abord dans la matérialité des images.
Oui.
Nous, on dit image, puis on sait qu'on veut dire symbole, mais quand ça nous est arrivé, c'était des images concrètes, terribles.
Oui. Et alors, donc, la première attitude, c'est de se laisser impressionner par des images qui sont comme des descriptions. Hein, on pourrait raconter ici des histoires, enfin, sur des sermons sur l'enfer, enfin. Par ailleurs, l'autre attitude, qui est de les écarter le plus possible, hein, et de les remplacer par autre chose, on ne sait pourquoi, est aussi une attitude répandue. Et actuellement, on peut penser que ces grandes images-là ne fonctionnent plus ni littéralement, ni symboliquement. C'est pourquoi ces grandes images-là, ben, on doit être capable de les interpréter. Hein, les interpréter en rapport avec le mystère de notre vie. Il est vrai, hein, que je peux échouer ma vie, pas simplement au plan humain, au plan radical. Et j'ai la liberté de faire ça. Hein, ça m'a trop frappé dans l'Évangile, comment l'Évangile est à la fois ouvert, accueillant, mais aussi profondément sérieux. Je me dis, parfois, on se dit, mais les paroles de Jésus sont des... disons, historiquement, c'est parce qu'il attendait la fin du monde prochaine. Moi, je dis non, non. C'est parce qu'il touchait... Le défi fondamental de la vie humaine.
Oui.
Il disait, vous pouvez manquer votre vie comme vous pouvez la réussir en Dieu.
Absolument. Il y a là une radicalité absolument. Quand on regarde le sermon sur la montagne, il n'y a aucun doute.
Et tout le travail des évangiles avec les disciples qui étaient proches, on voit bien que Jésus essaie de les éduquer, disons, à rencontrer cet enjeu fondamental. Maintenant, cet enjeu fondamental, il nous fait peur. Alors, on essaie, disons, de ne pas y penser. Parfois, on nous le rappelle avec des façons qui sont trop, comment on dirait ça, trop, disons, menaçantes. Hein? Mais c'est, je dirais...
Parce que c'est pas la meilleure motivation, la peur.
Non, c'est ça. Hein?
C'est ça. Et ce dont nous, on a entendu parler de la théologie médiévale, c'est l'accent sur la mort individuelle et les craintes dans lesquelles on faisait vivre les gens aussi jusqu'à un certain point.
Faudrait ajouter, peut-être, pour expliquer certaines choses... Ça a été un peu le problème de la chrétienté. Dans la chrétienté, tous les citoyens sont partis de la communauté ecclésiale et on les traite en chrétiens. Mais il y en a peut-être beaucoup qui ne l'étaient pas.
Bien sûr. Enfin, alors, ils n'avaient pas été christianisés.
Et comme l'Église est un peu responsable, au fond, du fonctionnement de la société, bien là, il fallait utiliser enfin, la peur, comme font les gouvernements aujourd'hui.
Mais c'est plus court que de faire de l'éducation de la foi, hein,
oui.
Vous et moi.
Oui. Et on pense que ça va plus vite, mais c'est plus lent. Il faut aimer assez la vie pour dire « c'est vrai que je peux la perdre, alors je vais la réussir. »
Oui.
C'est...
Sur le fait qu'on prend au pied de la lettre, ou on a pris au pied de la lettre, ce langage donc du ciel et de l'enfer, ça va vous faire sourire, Gaston. Mais quand j'étais enfant, l'image qu'on me donnait, et donc que je prenais au pied de la lettre, c'était qu'au ciel, on allait chanter les louanges de Dieu pour l'éternité. Vous voyez, je ne doutais pas que je serais au ciel. Hein, ça. Mais chanter pour l'éternité, vous entendez ma voix, mon cher? Et déjà à l'époque, je faisais du lip-sync dans la classe quand on chantait tout le monde ensemble parce que c'était toujours trop haut pour moi. et je me voyais vraiment pas faire du lip-sync pour l'éternité. Je devais avoir 10 ans. Le jour où je me suis dit, non, ça doit être une manière de parler qu'ils nous disent. Ça doit pas être ça que ça veut dire. Je pense que j'ai commencé à faire de la théologie à ce moment-là à cause d'une image qui ne faisait pas mon affaire, finalement.
C'est bon. C'est parce que vous faites comprendre aux gens le littéral. Puis c'est important parce que l'enfant, lui, fonctionne littéralement. Il ne peut pas y approcher.
C'est ça.
Bon. Alors, ça a été le défi, au fond, de la tradition chrétienne post-biblique de vivre avec ces deux séries de grandes images, les grandes images bibliques, au fond, que la liturgie a retenues, l'image de la parousie, du retour de Jésus, enfin, et les images plus individuelles que sont le jugement, enfin, le ciel et l'enfer. Enfin, c'est ça.
Gaston, je me doute bien que la réflexion théologique n'a jamais cessé d'explorer les questions de l'eschatologie et de la vie après la mort. Puis je suppose que, comme dans bien d'autres domaines, il y a plein de perspectives aujourd'hui. Si vous choisissiez une ou deux pistes des théologiens actuels que vous trouvez plus stimulantes, plus neuves, je dirais, quelque chose qui vous stimule, vous nous parleriez de qui?
Alors, un auteur, au fond, dont l'œuvre m'interroge, me confronte. Ce serait un ouvrage d'un théologien italien récent qui a été traduit en français, heureusement, Vito Mancuso. Un ouvrage qui s'appelle « De l'âme et de son destin ».
C'est un titre prometteur.
Qui est une prise de position extrêmement intéressante. Je ne sais pas si je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, mais j'ai trouvé que ce théologien pose des bonnes questions et surtout qu'il rejoint le malaise dans notre pensée face à l'amalgame entre, d'une part, la tradition proprement biblique et la tradition que j'appellerais plus philosophique et théologique, qui nous vient de la pensée philosophique des Grecs, qu'on ne peut pas mettre de côté. Hein? Et je trouve que son ouvrage, qui est très développé, pose de très bonnes questions, apporte des réponses extrêmement intéressantes, mais aussi, enfin, mériterait, disons, d'être examiné de près par chacun. Et si je pouvais simplement dire en quelques mots, au fond, ce que j'ai compris de sa pensée, je ne prétends pas l'avoir tout compris, c'est ceci, c'est qu'il nous aide à penser le développement de l'âme humaine à partir d'une réflexion dont le point de départ n'est pas immédiatement, disons, la notion de la création par Dieu de l'âme humaine au moment de la conception, mais en procédant à l'inverse, à partir en quelque sorte de la création de l'univers par Dieu, comment vont émerger des êtres qui vont être capables d'une vie, enfin, à la fois humaine et peut-être transcendante. Sa démarche, je pourrais dire ainsi, reprenant le schéma aristotélicien, où pour comprendre une réalité, on disait, une réalité, un objet, c'est à la fois une idée, une configuration, si vous voulez, de quelque chose qui est autre, à savoir sa matière. Oui. En donnant au mot matière un sens très large.
Oui, alors, mais ça voulait dire le matériel.
Le matériel. Autrement dit, dans un objet, il y a de la dimension, mais sa structure, et puis
la conception, l'idée même.
L'idée même, et puis comment se fait-il qu'on l'a...
Le support physique.
Le physique. Il prend ce schéma-là, et il se dit, mais pour nous aujourd'hui, avec ce qu'on connaît enfin, à travers les sciences physiques, qu'est-ce que c'est la matière première, l'élément premier? Il va dire, bien, on sait que l'élément premier, c'est l'énergie.
Que la matière même,
ce qu'on appelle d'abord énergie. Mais l'énergie, alors, qui est la donnée brute, à travers l'histoire, lentement, elle est différemment configurée. Et là, on voit apparaître, au fond, comme il va dire, des niveaux différents, non seulement des êtres configurés différemment, mais des niveaux différents de configuration. Et là, il va reprendre le vieux schéma. Il y a le niveau de configuration qu'on appelait autrefois l'âme végétative. Là où il y a de la vie, il y a une configuration. Alors, la vie végétative, c'est la vie de la plante et des arbres. C'est pas les cailloux, c'est autre chose. Et c'est un niveau de configuration. Ce niveau de configuration est toujours de l'énergie primale, si vous voulez dire. Il y en aura un nouveau qui va être, au fond, on va appeler l'âme sensitive. Donc, la vie, disons, animale, qui a cette qualité d'avoir un développement sensoriel beaucoup plus développé. Je dis pas que les plantes ne sentent pas, là. Mais enfin, un animal, ça voit. Ça a une mobilité aussi. Alors, c'est la même énergie configurée différemment, hein. Et cette configuration se développe aussi à un autre niveau, à un moment donné, qu'on voit voir apparaître. Et c'est la configuration de l'être humain, donc de l'être, au fond, qu'on va dire rationnel, hein, qui est capable de faire des choses que les animaux ne font pas, hein, tout en portant lui-même à la fois l'âme sensitive et l'âme végétative, au fond. Hein.
Oui.
La digestion est un phénomène végétatif pour nous. Alors, vous voyez, il y a une succession de configurations, et c'est dans ça qu'il reconnaît, au fond, la caractéristique du principe de vie qui est l'âme.
Alors, ce qu'il appelle l'âme, c'est le principe même qui organise la configuration. C'est pas deux choses, au fond.
C'est la réalité dans sa dimension configurée, qui comporte à la fois énergie et à la fois...
Bon. Ben, c'est intéressant, parce que donc, c'est une vision assez unifiée de l'être humain.
Et on voit qu'il développe une certaine finalité. Hein. Il y a un développement, il y a une finalité. Il y a du plus qui apparaît, et non pas seulement du moins... Il y a du plus. Hein?
Oui.
Alors, on reconnaît l'être humain dans la configuration rationnelle. Mais lui va ajouter, disons, un autre élément de la configuration qu'il va appeler la configuration spirituelle. Où là, il y a une capacité, en quelque sorte, d'ouverture à ce qu'on va appeler enfin, le divin, le transcendant.
Le transcendant.
On ne se donne pas le transcendant. On peut s'y ouvrir et lui peut venir nous rencontrer. Cette dimension spirituelle-là, là, c'est une quatrième configuration. Hein? Il va être à ce moment-là du domaine de l'expérience religieuse et choses semblables. Je trouve ça intéressant. Alors là, évidemment, dans un livre de près de 400 pages, il y a beaucoup plus que ce que je dis là.
Oui, puis on n'est toujours pas arrivé à la vie après la mort. Là.
Non. Hein? Mais c'est à travers la vie après la mort, ce sera quand l'être qui accède à la configuration spirituelle complète, hein, qui, au fond, passe à l'éternité, comme on dit. Mais l'éternité, c'est le présent, ça. Hein? Pas dans l'avenir. Oui. Et maintenant, l'éternité. Hein?
Bon.
C'est pas simplement l'après.
D'accord. Et on place la mort, puis tout ça, où, là-dedans, là? Je vais trop vite, là, peut-être? Ouais.
Non. La mort relève pas de l'éternité, elle relève du temps dans lequel je suis. Hein?
C'est pas... Ouais.
Mais tout ça pour essayer de faire comprendre, au fond, que ce qu'on va appeler, en quelque sorte, l'âme, au fond, spirituelle, hein, qui est là où on passe du temps présent... à l'éternité, si on y passe.
OK. Et là, vous ne me parlez pas d'après la mort, mais dans l'instant présent.
Dans l'instant présent, oui. Oui. L'éternité peut commencer dans l'instant présent.
On est dans l'Évangile de Jean.
C'est ça.
Oui, hein, celui qui m'aime, même s'il meurt, est vivant.
Est vivant. Hein, Paul qui nous dit, dans le Christ, vous êtes tous morts. Mais oui, mais les gens-là continuent à vivre. Hein.
D'accord.
Sauf qu'ils vivent une autre vie.
OK. Votre théologien, Mancuso, si je comprends bien, il dit on peut arriver comme à une configuration de ce qu'on appellerait l'âme, mais qui est moi, qui est tout moi, plus spirituel, c'est-à-dire à une ouverture au transcendant, qui permet au transcendant d'entrer en moi.
Et qui me fait entrer, moi, dans l'éternité.
Dans l'éternité.
L'éternité étant seulement le lieu de Dieu. Hein? Il y a une conséquence de ça, hein? Que Mancuso maintient. Alors, il va dire, ben voilà, celui qui manque sa vie, il retourne au néant.
Oui.
Ça remplace l'enfer.
Ben, c'est moins grave, je trouve.
Non.
Si on est au néant, en tout cas, on n'est pas malheureux pour l'éternité.
Non,
c'est
mais
déjà
c'est ça.
Ça
mais là, tu restes dans le temps. Hein?
Oui.
Mais c'est là qu'il va comprendre le jugement particulier, à la mort. Hein? L'être humain, hein, n'est pas encore dans l'éternité. Hein? Il se juge, il est présent devant l'éternité. Et là, c'est lui qui décide. Donc, j'ai choisi de ne pas vivre. C'est pire que l'enfer, à mon avis.
Bon. Mais ça ne dure pas longtemps.
Mais encore, tu reviens dans le temps.
Oui. Désolé, je ne peux pas m'abstraire du temps, moi. Peut-être que vous pouvez. Alors, au fond, ce que vous dites, c'est qu'il y a une sorte de manière de vivre qui fait qu'on se configure ou on est de plus en plus configuré en ouverture à la transcendance qui
est. Et à la vie profondément spirituelle.
À la vie spirituelle, okay. C'est ça. Et. Parce que c'est embêtant, il faut le dire avec nuance, sinon on donne l'impression que c'est moi, à force d'efforts, qui me configure et me rend digne, alors que on doit tenir en même temps, au niveau de la foi chrétienne, la mort reste la vraie mort, et c'est Dieu qui relève les morts, c'est pas moi, à la force de mes poignets, qui me deviens immortel. Enfin, c'est embêtant.
Hein? Oh oui. Par contre, faut pas nier, disons, la
responsabilité
humaine, qui est justement de s'ouvrir à.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Et de s'ouvrir pour accueillir ce qui vient. Ah.
D'accord. Et de se laisser peut-être configurer de plus en plus.
Oui.
En ce pourquoi on est créé, c'est-à-dire à l'image de Dieu.
Oui. Oui.
OK. J'allais dire, je comprends. Ça reste des questions complexes, on le savait.
Peut-être pour résumer un peu l'intention, enfin, de Mancuso, sans l'expliquer. Alors, son intention, c'est de surmonter l'amalgame biblique et philosophique, enfin, de surmonter, ce qui ne veut pas dire éliminer. Hein? Et ça l'amène à dire, enfin, sa position fondamentale, qu'on pourrait discuter, là. Il écrit quelque part, « La vie éternelle est le principal sujet de la théologie. Sa tâche consiste à éduquer les hommes à entrer ici et maintenant, sans attendre, dans la dimension de l'éternel, parce que l'éternité n'est pas après, à la fin, là-bas, elle est ici et elle est maintenant. Parler eschatologie, ce n'est rien d'autre que parler de l'âme. Voilà pourquoi ignorer l'âme conduit nécessairement à ignorer l'eschatologie. Et parmi tous les arguments qui amènent les humains à croire en Dieu, la vie éternelle est le plus décisif. » Tiré de Mancuso, page 65.
Mais c'est très beau, ce texte. Et d'autant plus si on se souvient que, pour Mancuso, je pense que vous l'avez dit ou je l'ai vu dans votre document, l'âme n'est pas quelque chose qui est séparé. Vous avez parlé de l'amalgame à surmonter. C'est ça, l'amalgame. C'est cette espèce d'idée d'une...
Une substance séparée qui serait l'âme, non?
Puis qui serait indestructible. Vous avez parlé, c'est ça, d'une substance indestructible dans l'être humain et que cette espèce d'amalgame rend tout le truc bancal.
Bancal, oui.
C'est ça. Alors lui, au fond, il sort de ce problème-là.
Il nous invite à le discuter, en tout cas.
OK. Dans ce que vous venez de nous dire, Gaston, ça concerne beaucoup chaque individu. Une réflexion centrée sur la personne, l'individu. Dans l'eschatologie judéo-chrétienne, il y a une dimension communautaire forte, vous l'avez évoqué, c'est une humanité transfigurée. Est-ce que dans les courants de théologie actuels, il y en a aussi qui prennent en compte davantage l'eschatologie au plan collectif, au communautaire, une certaine vision de l'humanité?
Alors, l'eschatologie comprise, au fond, sous ces trois facettes, a été, disons, déployée surtout par Moltmann,
oui,
dans ses ouvrages, qui nous fait comprendre qu'il y a une eschatologie personnelle, hein, qu'il ne faut pas escamoter, mais il y a aussi une compréhension de ce que Dieu est en train de faire, enfin, avec l'histoire, donc l'idée du royaume de Dieu, et aussi ce qu'il est en train de faire avec le cosmos, cieux nouveaux, terre nouvelle, et qui sont des courants qui se développent. Enfin,
oui.
Par exemple, dans l'attention à la cosmologie de plus en plus, il y a quand même une sorte de pressentiment que la Terre, c'est quelque chose qui a à se développer pour elle-même.
Oui, dans les sensibilités écologiques actuelles.
Il y a un respect, au fond. La Terre, pour un chrétien, c'est un organisme enfin, qui aura à s'épanouir transcendant.
Oui, comme Paul, hein? Terre,
j'ai mis en bas.
En travail d'enfantement. C'est pas seulement une auto-transformation. Là aussi, vous dites, et puis Moltmann, Dieu travaille là-dedans. Dieu travaille à ça.
Il travaille dans l'écologie, il travaille dans l'histoire, puis il travaille dans la personne humaine.
Gaston, c'était vraiment pas un sujet facile sur lequel vous avez accepté de nous entretenir. Vous avez pris le risque et je l'apprécie tellement. Et ça nous lance plein de pistes de réflexion, ça ouvre plein de portes. Et je suis sûr que les gens qui nous écoutent, comme moi, n'ont pas fini de réfléchir à ces questions et de vous remercier d'avoir stimulé notre réflexion là-dessus. Merci beaucoup, Gaston.
Moi qui te remercie.
Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette émission de la série « Croire d'hier à demain » qui est produite pour Radio Ville-Marie par l'équipe de l'Institut de pastoral des Dominicains. C'est Francine Robert au microphone. Je vous espère la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée sur les ondes de Radio Ville-Marie. À bientôt.